OK, alors on va terminer on est dans la même doctrine. La semaine dernière, on a commencé la doctrine du péché. On termine ça ce matin. Et il me restait deux pages à couvrir des notes de la semaine dernière. Alors, vous trouvez tout ça sur le site web, d'accord, dans la section cours biblique. Et vous trouvez aussi des copies, parce que les copies restantes des semaines précédentes, on les laisse au kiosque d'information. Je vous invite à apporter vos notes à chaque semaine, d'accord? Juste pour, justement, si j'ai à revenir en arrière. Alors, ce qu'on a vu ensemble, si je vais à la page 5, la doctrine du péché hérité, on a vu ensemble le point 1, la culpabilité héritée. Et donc, en Adam, tout homme est coupable, tous les hommes sont coupables. Je m'excuse, mesdames. Tous les hommes sont coupables en Adam. Nous avons donc hérité de cette culpabilité. Maintenant, ce qu'on voit ensemble à la page 6, la corruptibilité héritée. Alors, non seulement devant Dieu, nous sommes tenus responsables de cette nature pécheresse, mais cette nature pécheresse a un impact dans l'ensemble de notre vie, de notre être. Et ça, c'est hérité à partir d'Adam. Comme on va le voir un petit peu plus loin, c'est un aspect de la doctrine du péché qui est importante. Il y a eu Pélage qui défendait une autre version de ça et qui a été déclarée hérétique très tôt dans l'histoire de l'Église. Donc, c'est quand même un élément important. La corruptibilité héritée. Nous avons une nature pécheresse à cause du péché d'Adam. Nous apprenons par la parole de Dieu, mais aussi la vie enseigne à tout homme qui veut bien examiner son propre cœur, que nous avons aussi hérité d'Adam une nature pécheresse. Non seulement avons-nous hérité de sa culpabilité, mais aussi de sa nature déchue. Dans le psaume 51, alors là, si vous n'avez pas les notes, peut-être vous pouvez juste tourner dans le psaume 51. On va regarder très brièvement les versets 1 à 12. Dans le psaume 51, David exprime bien cette réalité tant sur le plan théologique que sur le plan de son expérience personnelle. Alors, je vais juste vous lire quelques versets, d'accord? À partir du verset 1, psaume 51, 1, « Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. » Donc, David parle d'un péché fait alors qu'il était adulte, mais il va parler de ce qu'il est en lui-même, de par nature, lorsqu'il retourne en arrière, lorsqu'il entre en lui-même, puis qu'il regarde ce péché-là qu'il a fait avec les autres péchés qui se sont joints à ça, il regarde à sa propre nature, puis ce qu'il constate, c'est qu'il a une nature pécheresse. Alors, verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi comme l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Quand David déclare au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché », on n'a aucune raison de croire que David serait en train de dire qu'il est né d'une union illégitime. D'accord? Au contraire, David est simplement en train de dire qu'il est lui-même, depuis son enfance, pécheur. Et il a besoin que Dieu vienne renouveler son cœur, vienne transformer son cœur. C'est ce qu'on trouve à la fin de cette section-là aussi, au verset 12, lorsqu'il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David savait qu'il était pécheur depuis sa naissance, depuis son enfance, depuis toujours, de par nature, il était pécheur. Et donc, il dit, « Je suis comme ça, j'ai besoin que toi, tu viennes me transformer. » C'est ce qui fait qu'il ne va pas seulement adresser la question de son péché immédiat, lié à Bathsheba, mais il va parler même de sa conception. D'accord? Paul défend aussi cette doctrine-là. Tout de suite après, l'apôtre Paul affirme que nous sommes pécheurs par nature, cette réalité définissant notre être propre, Éphésiens 2:3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc cette nature-là n'est pas acquise, on l'a à la naissance. Nous sommes pécheurs parce que nous l'avons hérité d'Adam. Et voici comment Grudem résume la conséquence qu'entraîne notre nature pécheresse. Au bas de la page 6, la corruption et l'inclination au péché que nous avons hérité d'Adam signifie qu'aux yeux de Dieu, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit qui lui soit agréable. Cela est vrai de notre nature comme de nos actions. Ainsi, nous sommes tous dépourvus de tout bien spirituel devant Dieu. En fin de compte, ce que ça veut dire, c'est que chaque aspect de notre être, on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, que ce soit ma volonté, que ce soit mes pensées, que ce soit mon intelligence, mes sentiments, mes actions, mes paroles, tout est affecté par le péché et rien de ce qui vient uniquement de moi saurait véritablement plaire à Dieu. C'est pas pour dire que quelqu'un ne peut pas faire du bien aux yeux des hommes. Mais devant Dieu, il n'y a rien que je vais pouvoir faire par moi-même qui va véritablement le satisfaire. Tite 1:5. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Jérémie 17, 9 et 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, écoutez bien la petite citation après, d'accord? L'Écriture ne nie pas que les non-croyants puissent faire le bien dans la société humaine dans un certain sens, mais elle nie qu'ils puissent accomplir des actions spirituellement bonnes ou être bons en ce qui concerne leur relation avec Dieu. D'accord? Alors, il y a plein d'œuvres de charité qui se font dans le monde, qui ne sont pas juste faites par des chrétiens. Et humainement, ce sont de bonnes choses qui sont faites dans bien des œuvres. Mais ces œuvres-là, premièrement, si elles ne sont pas faites pour la gloire de Dieu, elles sont faites par indépendance envers Dieu. Si ce ne sont pas des actes de foi pour glorifier Dieu, ce sont des actes pour l'homme seulement. Alors, même si l'être humain peut faire du bien dans le sens vraiment juste humain dans nos relations les uns avec les autres, nos œuvres, les œuvres qui ne sont pas faites par la foi pour Dieu, ne sont pas des œuvres qui en définitive vont plaire à Dieu et vont être pures devant Dieu. D'accord? Je continue, puis après ça, je prendrai quelques questions. Je vais terminer à page 7. Nous sommes totalement incapables d'accomplir des actions spirituellement bonnes devant Dieu. Ainsi, puisque nous sommes dépourvus de tout bien spirituel en nous-mêmes, il en découle bien sûr que nous sommes aussi incapables de faire le bien par nous-mêmes. Tout le bien qu'un homme peut faire sans Dieu ne saurait être un bien devant Dieu qui lui serait fondamentalement agréable. Ne serait-ce que parce qu'il n'est pas fait pour la gloire de Dieu, par la foi et par amour pour lui. L'être humain a été créé pour la gloire de Dieu. Et lorsque j'ai, admettons, quelqu'un qui est un humaniste, qui veut prendre soin de son prochain, mais qui le fait dans une attitude d'indépendance, on n'a plus besoin de Dieu, on n'a plus besoin de glorifier Dieu, Dieu n'existe pas, Dieu est mort, prenons soin les uns des autres. Ça a beau être dans une perspective humaine, une bonne action, ce n'est pas une action qui va plaire à Dieu. D'accord? Et donc, nous ne sommes pas capables, par nous-mêmes, sans la grâce de Dieu, à cause de cette nature pécheresse, de poser des gestes qui vont, sans la grâce, tout simplement plaire à Dieu. Romains 8:8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La triste réalité de notre nature pécheresse nous garde dans un état d'esclavage au péché, ce dernier étant notre maître et nous dominant. Et par conséquent, tout le bien qu'un homme peut faire n'est pas admissible devant Dieu. OK, je vais juste terminer avec mon dernier verset, puis je prends vos questions. Et par conséquent, tout le bien qu'un homme peut faire n'est pas admissible devant Dieu. L'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Oui, vous avez une question. Oui. Oui. Est-ce que vous entendez bien? Ça va? Oui. Oui, je comprends. Alors, laissez-moi, mais en fait, c'est parce que cette phrase-là n'adresse pas du tout le sujet que vous adressez. D'accord? Non, pas du tout. Quand vous faites ça, est-ce que vous faites ça pour gagner votre ciel?
Non.
OK. Donc, vous faites ça parce que Christ est venu vous sauver. Puis, pour remercier le Seigneur, vous le faites.
Oui,
c'est ça. Alors, voilà. Ça prend la grâce. Vous comprenez? C'est ça. Alors, on n'est pas en train de dire que une fois sauvé, ce que l'on fait déplaît à Dieu. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que ce n'est pas sur la base de nos œuvres qu'on va pouvoir se présenter devant Dieu, puis Dieu va dire, voilà quelqu'un. Exactement. Alors, tout ce qu'on dit ici, c'est ça. Tout ce qu'on dit ici, justement, c'est qu'il n'y a rien de... On est en train de parler de la droiture devant Dieu. Et ce qu'on dit, c'est que l'homme, par lui-même, ne peut pas faire des choses qui vont plaire à Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'on va le faire, tout simplement. D'accord? Oui, oui, absolument. Mais ça sera pas, ça va être premièrement par la grâce de Dieu, puis deuxièmement, ça ne sera pas une base pour votre salut. Vous comprenez? Alors, c'est tout ce qu'on dit. On est en train d'adresser ici la question. En fait, laissez-moi le placer autrement, d'accord? Je vais essayer de l'illustrer autrement. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu est capable de poser des actes qui vont devant Dieu? Dieu va dire, c'est absolument pur, ça me plaît, c'est l'acte d'un être saint qui est posé. En définitive, la réponse, c'est non. D'accord? Quelqu'un, même si quelqu'un pose un acte qui va apparaître totalement altruiste, d'accord? Totalement désintéressé, puis pour quelqu'un d'autre, puis qu'il ne le fait pas dans la crainte de Dieu, c'est pas un acte qui va plaire à Dieu. Alors, cette révérence envers Dieu, cette attitude favorable envers Dieu, c'est une œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. D'accord? Oui. Alors, c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, sur un plan de relations humaines, des relations humaines, c'est certain qu'il y a des gens qui posent des actes, puis tu dis, humainement, c'est génial, cette affaire-là. Tu sais, je dis, à la limite, tu peux être un athée fini, puis faire des choses qui vont être positives socialement, dans un certain sens. Ultimement, ça ne le sera pas si ça ne nous amène pas vers Dieu. Mais dans un certain sens, ça peut être positif socialement. Même si je le fais dans une attitude avec une conviction totalement athée. D'accord? C'est pas quelque chose qui va plaire à Dieu en définitive. Parce que je ne suis pas en train de le faire pour Dieu. C'est vraiment par la grâce de Dieu que l'être humain est capable de faire ça. Bon, est-ce que tout ça, c'est un débat qui est juste théorique? Non, c'est pas un débat qui est juste théorique. Quand vous êtes en train de penser aux gens qui n'ont pas entendu parler de Jésus, puis qui étaient, comme on le dit souvent, des bonnes personnes. Mais là, si vous pensez que ces gens-là sont véritablement capables d'être des bonnes personnes sans Dieu, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas être sauvés sur la base de leur vie sans Jésus-Christ? Alors, quand dans votre conviction intérieure, là, je fais appel à ce que vous pensez au plus profond de vous, là, quand vous regardez l'ensemble des êtres humains sur la terre, est-ce que vous êtes prêts à croire et vous avez une conviction, vous dites, personne ne peut être sauvé s'il ne croit en Jésus-Christ. Ça, c'est ma... Personne... Oui? Vas-y, Linda. Oui? Oui. Voilà. Voilà. Oui. Ah ben, puis en fait, il y en a plein qui le font pour Dieu. Peut-être le font-ils pour Dieu, pour plaire à Dieu puis gagner leur ciel, mais ils le font pour Dieu. Tu comprends? Fait que la manière, je pense que c'était John Owen, c'est pas John Owen, je cite pas le bon monsieur, là, mais qui disait, il y a assez de péchés dans la plus belle de mes prières pour m'envoyer en enfer pour l'éternité. C'est Edwards qui disait ça? OK. Et donc, sa réflexion, c'était simplement, et regardez bien comment des fois on va être injuste. On admet ça pour nous. Comme chrétiens, plus on s'approche de Dieu, plus on lit les Écritures, plus on laisse l'Esprit de Dieu nous travailler, plus on voit à quel point le péché, il se ramifie, puis il est comme partout. Tu sais, t'es là, puis t'es en train de servir, puis t'es sûr, tu sais, t'es dedans, puis là, tu termines, tu dis, « Oh, celle-là était bonne, Seigneur. » Puis là, tu vois le fond de ta pensée. « Ah, encore. » C'est correct, Seigneur, c'est par grâce. C'est. Donc, ça, on va admettre ce jugement-là pour nous. Maintenant, nous, tu dis, on cherche à plaire à Dieu. Là, on arrive devant quelqu'un qui ne cherche pas à plaire à Dieu. Puis on va dire, peut-être que c'est pur ce qu'il a fait, lui. Parce qu'il a vraiment l'air d'une bonne personne, puis je serais injuste si je disais que c'était pas pur. Voyez-vous comment est-ce qu'on raisonne? C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un débat qui est théorique. Quand vous allez annoncer l'Évangile à quelqu'un, un collègue de travail, tout ça, puis que vous arrivez devant cette personne-là, puis vous l'écoutez parler, puis tu sais, elle gère mieux son budget que toi. Elle est plus ordonnée que toi dans sa vie. Meilleur travailleur, meilleur employé au travail que toi. Là, tu te dis, « Boy, je peux-tu vraiment y apporter quelque chose avec l'Évangile? » Dans le fond, c'est parce que fondamentalement, vous n'êtes pas convaincu qu'il n'y a pas absolument rien, il n'y a absolument rien qu'un homme peut faire par lui-même pour plaire à Dieu, si ce n'est par la grâce opérante de Christ en lui. OK? Fait que ça, c'est une implication concrète de cette doctrine-là. La même chose lorsque vous considérez l'ensemble de la terre, puis vous avez un débat avec un collègue de travail, vous voulez parler du Seigneur, puis il commence à vous dire, « Oui, mais qu'est-ce qui arrive avec tous ceux qui ne connaissent pas Jésus? Qu'est-ce qui arrive avec eux autres? Tu les rejettes toute la gang, c'est ça? » Puis là, vous commencez à chambranler, puis là, vous commencez à vous dire, « Peux-tu changer de sujet? » Tu sais, tu essaies de passer à un autre sujet. C'est la conviction qui n'est pas claire. D'accord? Alors, c'est pas sans incidence comme doctrine. C'est bon? On va passer à la leçon de cette semaine, qui est encore le péché. On va continuer à développer un petit peu tout ça. Les péchés actuels. Comme on l'a dit, tous les hommes sont pécheurs devant Dieu. Alors là, c'est simplement l'idée de corruption universelle. Tous les hommes sont pécheurs. C'est une affirmation qui est simple, qui est claire dans les Écritures. Quelques références. Psaume 14:3, pardon. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Encore une fois, ça a une implication dans votre évangélisation. Ça a une implication dans votre prière. Ça a une implication dans votre regard de ce que les gens font. Quand vous regardez à des choses qui sont faites dans le monde, qui sont des actes, comme on disait tantôt, altruistes, très généreux, tout ça, puis vous commencez à admirer ça au-delà de ce que l'Église peut faire, il y a une réserve à avoir à un certain moment donné. Oui, tu peux dire, regarde, des fois, ils nous font la barbe hein, parce qu'ils se donnent plus que nous, tu sais, puis dans le fond, on a peut-être des choses à apprendre d'eux. Puis on devrait être humilié du fait qu'on n'est pas plus généreux envers les hommes. Ça va. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est le fruit d'un cœur pécheur. Ce n'est pas quelque chose qui va plaire de lui-même à Dieu. Psaume 143:2, « Car aucun vivant n'est juste devant toi. Il n'y a point d'homme qui ne pêche. » Donc, est-ce que Gandhi s'en va au ciel? Il n'y avait pas Jésus-Christ. D'accord? Est-ce qu'il est pécheur? Ce sont des choses qui doivent être absolument claires. Autrement, il y a d'autres médiateurs que Jésus-Christ. Il y a d'autres moyens de salut que Jésus-Christ. Ce n'est pas juste Christ. 1 Roi 8:46, il n'y a point d'homme qui ne pêche. Romains 3, 9 et 10, quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Est-ce que Paul est en train de dire que lorsque quelqu'un qui croisait quelqu'un dans une cité romaine, un païen, qui était ni juif ni chrétien, puis qui venait en aide à quelqu'un qui était maltraité, est-ce qu'il est en train de dire que c'est mal ce qu'il est en train de faire là? Il n'est pas en train de dire ça. Mais il est en train de dire que cette personne-là est tout aussi pécheresse que nous et elle ne cherche pas fondamentalement Dieu dans la crainte de Dieu comme elle devrait le faire. Tous les hommes sont affectés par le péché. Encore une fois, si vous regardez mon commentaire là, au milieu de la page 3, cette doctrine est d'autant plus facile à admettre qu'en plus d'être clairement affirmée par les Saintes Écritures, la vaste majorité des hommes, s'ils veulent bien être honnêtes, l'observent dans leur propre vie. Alors, la majorité des gens que vous connaissez, non chrétiens, sont prêts à admettre qu'ils ne sont pas parfaits. Et si vous avez une vraie discussion avec eux, pas parfait, ça veut dire qu'ils ont fait, je m'excuse, je vais être grossier, des conneries. D'accord? C'est pas juste qu'ils n'ont pas toujours fait les bons choix, c'est qu'ils ont fait des mauvais choix intentionnellement. Vous voulez traduire ça en langage concret? Ils ont été vaches dans les relations avec des gens. Ils ont été durs, ils ont été égoïstes. Ils ont trahi, ils ont menti. Ils sont prêts à reconnaître ça. D'accord? Oui, alors c'est ça. Là, ça te prend un processus. Hein? Quand tu commences à vivre avec le poids de te regarder dans le miroir, ben le balancier, hein, c'est le balancier égyptien, c'est exactement ça. Quand tu vas te retrouver devant Dieu, on a une balance. Puis on espère que ça va aller du bon côté. L'islam est bâti là-dessus aussi. Exactement le même raisonnement. D'accord? Pardon? Le bouddhisme aussi. Ben c'est ça. Puis après ça, tu as les principes de réincarnation aussi qui éventuellement viennent à ça d'une certaine manière. Notre capacité limite-t-elle notre responsabilité? Alors ça, c'est important. Tantôt, je parlais de Pélage. Pélage, un enseignant chrétien qui était de profession chrétienne au départ, un enseignant chrétien populaire ayant vécu à Rome vers 383-410 après Jésus-Christ, et plus tard, en Palestine, enseignait que Dieu tient l'homme pour responsable seulement des choses qu'il est capable de faire. Puisque Dieu nous ordonne de faire le bien, nous devons avoir la capacité de faire le bien que Dieu ordonne. La position pélagienne rejette la doctrine du péché hérité, ce qu'on a vu plus tôt, ou péché originel, et maintient que le péché consiste seulement en des actes répréhensibles commis par le pécheur lui-même, indépendamment du péché d'Adam. Alors l'idée de Pélage, c'était, puisque Dieu nous tient responsables, il faut que nous soyons capables de ne pas pécher. Autrement, Dieu ne peut pas nous tenir responsables. Je veux dire, en mathématiques, c'est assez, ou en logique, c'est assez solide comme raisonnement. Tu sais. Est-ce que je pourrais pas me dire que c'est injuste que Dieu me tienne pour coupable si je suis incapable de faire le bien, si j'ai hérité d'Adam, ma nature pécheresse? Maintenant, je vais juste montrer une implication un peu absurde de ce raisonnement-là. Puis après ça, on va voir un peu ce que les Écritures disent. Si vous allez au haut de la page 4, Grudem apporte un argument intéressant en nous faisant observer que selon la pensée pélagienne, nous devrions conclure que ni Satan, qui est incapable de faire le bien, ni les criminels endurcis ne devraient être tenus pour coupables puisqu'ils ne sont pas capables de se changer eux-mêmes pour faire le bien. Donc, si je suis tenu responsable seulement, si je suis tenu pour coupable de pécher, juste si je suis capable de ne pas pécher, ça veut dire que Satan n'est pas coupable d'aucun péché. D'accord? Il n'y a pas de bien en Satan qui fait qu'il va marcher dans la droiture. Et si vous allez rencontrer des criminels endurcis, vous allez conclure qu'à quelque part, ils ne sont pas capables de se changer par eux-mêmes. Allez-vous conclure qu'ils sont totalement irresponsables de ça? Bien, je vous dirais qu'une partie de la psychologie moderne qui s'en va de plus en plus vers ça. Notre système correctionnel cherche à réhabiliter les violeurs à répétition, les abuseurs d'enfants à répétition, les pédophiles. On cherche même à les réhabiliter ceux-là. Donc, on est en train de se dire, ah, ils sont capables de changer. Voyez-vous, au niveau de la psychologie, il peut avoir ce genre de pensée-là. Maintenant, on ne va pas tenir Satan comme non coupable Parce qu'il a juste comme passé la coche, il n'est plus coupable maintenant. Il n'est plus capable de faire le bien. Est-ce que vous suivez ce raisonnement-là? Oui, non? Il y a des points d'interrogation dans les visages, là. Linda, rends-nous service. Exprime le point d'interrogation. Oui, bien, dans une perspective peut-être de... Dans le cas de Satan, je pense même pas que ça serait très altruiste, là. Mais vous comprenez l'idée, c'est... Dans le cas de Satan, lorsqu'on s'en va à l'extrême, on va dire, ben non, il est coupable, même s'il n'est pas capable de faire le bien. Parce qu'il a franchi une barrière, puis il n'est plus capable de revenir en arrière. Mais il est coupable. Oui. Ben, de toute évidence, non. Le bien, ça commence par la crainte de Dieu. T'sais. Le bien commence par le désir de vouloir glorifier Dieu. Alors, est-ce qu'on va dire, si Dieu veut être fair avec Satan, il va dire, c'est pas de ta faute. T'es pas capable de faire le bien. Puis il va dire aux criminels endurcis, ben, c'est pas de votre faute. Vous êtes plus capable de faire le bien. Votre cœur s'est endurci dans le péché. Voyez-vous? Alors, Pélage, son argument, c'était, si Dieu veut nous tenir responsables, il va falloir qu'on ait la capacité de ne pas pécher par nous-mêmes. Les Écritures nous enseignent qu'on a hérité d'Adam une nature pécheresse et que nous sommes responsables. Par conséquent. Maintenant, ça colle avec notre expérience personnelle aussi. Quand vous péchez, là, avez-vous l'impression que vous êtes une marionnette qui a péché ou vous êtes conscient d'avoir fait un choix de pécher? Dans la majorité des péchés, je parle. On s'entend, des fois on pêche puis tu réalises, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Tu sais, je n'en ai même pas conscience, mais il y a beaucoup de péchés, on est très, très conscient d'être responsable de notre décision. D'accord? Est-ce que ça va? Ou... On est dans la haute voltige un petit peu. Oui? OK. Oui, c'est un choix qu'on fait de pécher. Oui. On a hérité. Ben, oui. Oui. Puis on est responsable de ça aussi. Oui. Je pense que des fois, il y a des situations où on pêche puis on se rend compte que notre nature pécheresse est tellement partout en nous qu'il y a des choses qu'on fait inconsciemment. Donc, ce n'est pas nécessairement un choix délibéré. Dans l'Ancien Testament, il y avait une nuance entre les péchés qui étaient des choix délibérés puis les péchés qui ne l'étaient pas. Donc, puis il y a les péchés par omission aussi. Volontaire. Donc, je pense que ce n'est pas dans tous les cas un acte volontaire et conscient. Mais en même temps... Je veux dire, on ne se réveille pas après avoir péché en disant, « Mais là, regarde Dieu, c'est parce que moi, je suis une marionnette. Là, j'avais pas de choix là-dedans. Là. » Fait que, tu sais, tu vas pas me tenir pour coupable de ça. Là. Non, non, tu t'en retournes en arrière et tu dis, « Non, ça me tentait de placoter. Là. Ça me tentait de le planter. Ça me tentait de l'haïr, celui-là. » Puis, c'était vraiment ce que j'étais dans mon cœur. C'était le sentiment qui venait de mon cœur. Oui. Oui, oui, oui. Mais là, on s'entend, on est en train d'établir la situation de tous les hommes. Le point fondamental du salut dans Romains 6, c'est que l'Évangile vient nous libérer de la loi du péché. Et on entre dans une nouvelle liberté où on devient capable, par la grâce de Christ, par l'Esprit, de ne pas pécher. On demeure péchant jusqu'à la fin. Donc, on va pécher à différents moments, mais on a cette liberté-là de marcher dans les voies de Dieu. Et c'est le but, au-delà de la justification puis du pardon qu'on trouve dans le sacrifice de Christ, c'est cette libération des chaînes du péché aussi que Christ nous a offert à travers son salut. Une fois qu'on est en Jésus-Christ, la réalité change. Et ça doit commencer à se voir dans nos vies. Oui, c'est bien. Mm-hmm. Ouais. La nuance que je ferais dans le cas du serpent, là, qui est importante, c'est que dans tout l'ensemble de la création de Dieu, les animaux ne font pas partie des êtres qui avaient à faire un choix entre le bien et le mal. Fait que c'est vrai que le serpent était maudit. Toute la création a été maudite à cause du péché de l'homme. T'sais, les arbres aussi ont été maudits, puis il n'y avait rien fait de mal. Comment toute la création a été maudite? OK. Je sais que c'est un petit peu compliqué ce qu'on adresse, puis peut-être tranquillement ça rentrera lorsque vous allez croiser aussi ces notions-là ailleurs. Comme je vous ai dit, il y a des bonnes lectures à faire si vous voulez pousser plus loin, parce que je fais quand même un survol. Alors, notre capacité limite-t-elle notre responsabilité? Puisqu'on a hérité d'une nature pécheresse en Adam, nous ne pouvons pas fondamentalement faire le bien, mais nous demeurons responsables de nos péchés. Devant Dieu, c'est très clair. C'est aussi notre expérience à nous. Nous constatons bien que nous sommes responsables de nos actes. Le pélagianisme, la note, s'intéressait plus fondamentalement à la question du salut et soutenait que l'homme pouvait de lui-même faire les premiers pas en direction du salut sans l'intervention de la grâce de Dieu. Le pélagianisme a été condamné comme une hérésie au Concile de Carthage en 418. 3. Les enfants sont-ils coupables avant d'avoir péché par un acte de leur volonté? Maintenant, je veux juste faire un petit commentaire avant d'adresser cette question-là. Je sais que j'adresse un sujet sensible. Probablement qu'il y a des sœurs ici qui ont perdu des enfants pendant la grossesse, d'accord? Je voudrais pas sonner trop dur non plus. Et pour moi, il y a une part de mystère dans tout ça. Je vais le résumer un petit peu à la fin, d'accord? Mais on avance tout de même avec ce que les Écritures nous disent. En ce qui a trait à la nature des enfants, nous ne saurions défendre une doctrine qui voudrait que les enfants nouveau-nés ou en très bas âge ne soient pas dotés d'une nature pécheresse comme la nôtre. En effet, le poids des Saintes Écritures nous amène plutôt à conclure que nous sommes tous coupables devant Dieu, tous pécheurs par nature. Alors, une doctrine qui voudrait qu'un enfant qui n'est pas né n'ait pas une nature pécheresse, c'est pas défendable avec la parole de Dieu. En Adam, nous avons tous hérité de cette nature pécheresse. À partir de la conception, entre guillemets, on est coupable devant Dieu, même si on n'a pas fait encore notre premier péché consciemment. On va simplement confirmer cet état-là lorsqu'on va commencer à pécher consciemment. Est-ce que vous m'avez suivi là-dessus? Je vais simplement confirmer la nature que je possède lorsque je vais commencer à pécher consciemment. L'apôtre Paul, comme nous l'avons vu plus tôt, enseigne que nous sommes tous pécheurs par nature. La question qui est beaucoup plus délicate à trancher, alors, la question de savoir si les fœtus sont pécheurs par nature, avec les Écritures, c'est une question simple. Je ne dis pas que c'est simple dans ses conséquences pour un cœur de parent qui perd un enfant. Je ne dis pas que c'est simple. Mais théologiquement, c'est assez simple à clarifier. La question qui est beaucoup plus délicate à trancher est la destinée de tous les enfants qui décèdent avant d'être en âge de prendre une décision pour Christ. Est-il possible que certains soient sauvés? Donc, ce que les Écritures nous disent, c'est qu'on est tous pécheurs, puis sans la grâce de Christ, on ne peut pas être sauvés. Alors, la question de savoir si tous les petits-enfants qui décèdent avant de naître avaient une nature pécheresse, ils avaient une nature pécheresse, on l'a tous hérité d'Adam. Est-ce que certains d'entre eux pourraient être sauvés? Est-ce que ça, c'est possible? Ça, c'est une question où je vous dirais, il y a différentes positions. Personnellement, la position de Grudem ne me convainc pas. Mais elle vous plaira peut-être. Je vais vous la présenter quand même. Disons premièrement que si certains de ces enfants étaient sauvés, ce ne serait pas en raison de leur mérite ou de leur pureté, mais simplement en vertu de la grâce. D'accord? Alors, si on est tous pécheurs, on a tous hérité d'une nature pécheresse, ce n'est pas parce qu'ils seraient purs, ces petits êtres, qu'ils seraient sauvés. Ce serait aussi en vertu de la grâce, de la même manière que pour vous et moi, puisqu'on a tous hérité de cette nature pécheresse en Adam. Certains théologiens comme M. Grudem vont aller jusqu'à affirmer que certains enfants peuvent être régénérés. Lorsqu'on parle de régénérer, c'est le cœur nouveau qui nous était promis dans l'Ancien Testament. Avant leur naissance, appuyant leur conviction sur des passages de la parole de Dieu, comme l'épisode du décès du premier enfant de Bathsheba, 2 Samuel 12, 23. Puis là, je vais vous lire la longue citation. C'était plus simple pour moi de vous citer son raisonnement. Dieu peut tout à fait régénérer un enfant, c'est-à-dire lui communiquer la vie nouvelle, même avant sa naissance. Cela a été le cas pour Jean-Baptiste, car l'ange Gabriel a dit avant qu'il ne soit venu au monde, « Il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein maternel. » On pourrait dire que Jean-Baptiste est né de nouveau avant sa naissance. On a un exemple semblable dans le psaume 22, 11, où David dit « Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. » Il est donc clair que Dieu est capable de sauver des enfants d'une manière inhabituelle, sans qu'ils aient entendu ou compris l'Évangile, en les régénérant très tôt, parfois même avant la naissance. Cette régénération entraîne probablement une conscience intuitive de Dieu et une confiance en lui à un très jeune âge, mais c'est quelque chose qui échappe à notre compréhension. Moi, je vous avoue, je ne suis pas convaincu par ce raisonnement-là. D'accord? Je ne suis pas à l'aise de vous dire que c'est le cas, mais comme les théologiens sont assez divisés sur ça, je me sentais en devoir de vous le présenter. Je trouve que le psaume 22:11 est cité hors contexte. Je pense que David est simplement en train de dire que Dieu est Dieu de tous les hommes, non pas qu'il était lui-même déjà habité d'une pensée spirituelle ou qu'il avait déjà un cœur pour plaire à Dieu. Alors moi, je ne suis pas convaincu de ça. Fait que personnellement, ma réponse pratique devant les décès qui peuvent se passer en grossesse ou en très bas âge, tout ça, personnellement, je laisse cette partie-là à Dieu. Et de la même manière que Dieu m'a sauvé par grâce, je crois qu'il est capable de sauver par grâce. Pour moi, il y a une part de mystère. Je ne trouve pas que les Écritures sont concluantes sur ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont étudié le sujet et qui voudraient juste faire un commentaire. Je suis à l'aise avec ça. Je sais que c'est un sujet qui est délicat. Oui. Je vais répéter. Bon. Fait que tu vois, Marie, c'est la position de plusieurs. OK, c'est la position de plusieurs, celle que... Est-ce que vous avez compris? Je vais juste répéter. Mais c'est ça. Ce que Marie a dit, c'est la position de plusieurs chrétiens. Là. C'est l'idée que puisque Dieu est juste et il est amour, étant donné que l'enfant n'est pas en position de pouvoir prendre une décision, sûrement que dans sa justice et dans son amour, il va faire grâce. Ma conviction à moi, c'est exactement l'opposé de ça, personnellement. C'est-à-dire que nous sommes tous pécheurs par nature. J'ai pas besoin de faire ma première faute pour être coupable. Je suis déjà coupable. Le mystère pour moi, c'est est-ce qu'il y aurait des élus parmi ceux qui n'arrivent pas en âge de prendre une décision. Ça, c'est un mystère pour moi. Karine. À tous les parents. Oui. Maintenant, ma conviction, puis pour moi, c'est vraiment ce que les Écritures enseignent clairement, c'est qu'avant ça, je suis coupable. Je l'ai hérité d'Adam, cette culpabilité-là. Fait que si Dieu sauve des enfants qui ne sont pas nés, des fœtus, admettons, ça va être un acte de grâce, tout simplement, qui ne serait pas plus systématique que l'élection dans le monde. C'est ma compréhension. Oui.
Dieu sait tout d'avance, peut-être qu'il saurait déjà si l'enfant aurait accepté par grâce ou non.
Oui. Bien, c'est ça. Étant donné que moi, je suis plus calviniste par conviction, je dirais, Dieu sachant tout d'avance toute chose, il sait déjà s'il a élu des fœtus. Okay? C'est possible. Fait que je laisse cette place-là à Dieu, c'est un mystère. Mais je ne crois pas que l'élection, ça c'est un autre sujet, là, mais je ne crois pas que l'élection est sur la base de la préscience de Dieu. Dieu, regardant d'avance dans l'avenir, dit, celui-là va décider, c'est un de mes élus. C'est pas ma conviction du tout. C'est Dieu a décidé de choisir, puis d'autres n'ont pas décidé de choisir. C'est une nuance. Mais... on va le voir plus loin. Mais si vous voulez vous amuser, prenez un dictionnaire, faites une recherche à Jean Calvin, vous allez déjà avoir une bonne idée. D'accord? Mais en gros, là, en 30 secondes, puis je ne répondrai pas à d'autres questions sur le calvinisme, on va y revenir plus loin. Grudem est calviniste. C'est ça. Le calvinisme, en gros, c'est une manière de résumer, c'est un terme qu'on utilise pour résumer certains points que Calvin a développés. Entre autres, l'idée justement qu'on est totalement corrompu, la dépravation totale du cœur humain. C'est Calvin qui l'a clarifié comme aucun autre l'avait fait. Augustin l'avait défendu, mais Calvin l'a vraiment clarifié. Le fait qu'on ait... c'est ça, l'élection pure, c'est-à-dire que Dieu a choisi, non pas sur la base de ce qu'il verrait dans le futur dans notre cœur, mais par pure élection, d'en sauver certains et de ne pas sauver les autres. Ça, c'est la position calviniste. L'autre position qu'on rencontre souvent quand même, c'est la position arminienne qui dit « Dieu regardant dans l'avenir, sachant qui choisirait, les a élus. » Ça, c'est sur la base de la préscience de Dieu. C'est la position arminienne. Fait que, quand on parle des calvinistes, souvent c'est par opposition à l'arminianisme. Mais on va voir ça un petit peu plus loin dans la doctrine du salut. D'accord. Donc c'est ça, pour moi c'est vraiment une partie mystérieuse où Dieu pourrait le faire. Dieu pourrait avoir des élus parmi les non-nés. À la limite, je peux admettre ça. J'ai pas vraiment d'évidence claire pour moi dans les Écritures. Juste une seconde. Une seconde même pas. Oui. 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 Ben, moi, je vous dirais... ouais. Mais je vous dirais l'expérience de beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens. Je pense au témoignage de Marc Bacon, qui était tellement clair. Lui, c'est clair pour lui. Même aujourd'hui, comme adulte, lorsqu'il regarde en arrière, il a accepté le Seigneur à l'âge de 5 ans. C'est clair pour lui... S'il n'avait pas placé sa foi en Jésus-Christ, oui. Oui. Mais d'ailleurs, je vous dirais, Mme Piché, quand même, une bonne piste de réflexion pour vous, c'est le fait que Jésus nous dit d'avoir la foi d'un enfant. D'accord? Jésus nous dit, si vous n'êtes pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors moi, la nuance que je ferais, c'est qu'ils ont un mauvais cœur. D'accord? Parce qu'ils sont pécheurs pareils comme moi, je crois qu'ils sont susceptibles d'avoir une foi qui plaît à Dieu pour placer leur foi dans l'Évangile, puis je crois que l'Esprit peut faire cette œuvre-là en eux. Ça, c'est ma conviction, puis je crois que ça se défend bien avec les Écritures, de par le fait même que Jésus nous donne ces êtres-là, justement, qui vont croire facilement comme des modèles, et qu'on devrait être crédules, hein, comme eux. Oui, Wemba. Veux-tu le lire fort, s'il te plaît? Ouais. Bien fort, s'il te plaît.
Et là, Jean-Baptiste a 6 mois. Et on dit, dès qu'Élisabeth entendit les salutations de l'âge, son enfant tressaillit dans son sein.
Ouais.
Donc, en fait, à 7 mois, Jean était capable de réagir favorablement envers Dieu.
Alors, ce que j'ai l'impression qui se passe avec Jean-Baptiste, mais c'est exactement le point de Grudem, d'accord? Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement faux, ce que tu dis. Ce n'est pas ma conviction. J'ai plutôt l'impression que l'Esprit de Dieu était sur Jean-Baptiste, comme l'Esprit de Dieu pouvait être sur Saül, d'accord, dans l'Ancien Testament. C'est ça. Alors, un exemple, on a Saül qui va être, entre guillemets, rempli de l'Esprit à un certain moment donné, parce que l'Esprit de Dieu est sur lui étant le roi, puis après ça, l'Esprit de Dieu va le quitter. Est-ce qu'on parle d'une régénération dans le sens d'un cœur nouveau où l'Esprit ne quitte pas? Non. C'est clair. Fait que j'ai plutôt l'impression que c'est ça qui se passe avec Jean-Baptiste. Mais je ne suis pas en train de dire que t'as tort, je ne pourrais pas l'affirmer. C'est pas super clair. Voyez-vous, Grudem a une autre position. D'accord? Alors, on ne tranchera pas ça de manière définitive. En même temps, c'est important pour moi parce que j'ai la responsabilité de vous enseigner, que je vous enseigne ce que je pense qui est clair dans les Écritures, parce que pour moi, c'est quand même pas mal clair, là. Mais je respecte, je vous présente une autre position, parce qu'il y en a quand même d'autres qui sont défendus par des théologiens très orthodoxes, très, très près des Écritures. Où est-ce qu'on en était avec ça? Je m'excuse. Oui. Est-ce qu'il y a des gravités? Y a-t-il des degrés de gravité du péché? À la page 5. Alors, si on parle de culpabilité légale, évidemment, non. Le plus petit péché est suffisamment pour que je sois déclaré coupable devant Dieu. Ça, il n'y a pas de péché mortel, de péché véniel, de péché ci, de péché ça. Tous les péchés sont péchés devant Dieu parce que Dieu est saint. Puis, je veux dire, la plus petite des fautes est une faute devant Dieu. Et ça, c'est assez clair, je ne m'étirerai pas sur ça, d'accord? Maintenant, B, les conséquences dans notre vie et dans notre relation avec Dieu, là, il va y avoir un degré de gravité. Et il y a un degré de gravité dans ce qui plaît et déplaît, dans ce qui déplaît à Dieu, je devrais le dire comme ça plutôt. Il y a des choses qui déplaisent davantage à Dieu parmi les péchés. Tous les péchés sont péchés. Le plus petit des péchés fait de moi un coupable devant Dieu. Pourtant, les Écritures disent qu'il y a certains péchés qui sont plus abominables aux yeux de Dieu que d'autres. Nous pouvons d'autre part parler, je suis au milieu de la page 5, de gravité des péchés sur le plan des conséquences que les péchés peuvent apporter. En effet, certains péchés entraînent des conséquences plus sérieuses dans la vie des hommes. Nous voyons dans les Écritures aussi que Dieu affirme que certains péchés sont plus grands que d'autres. Déclaration de Jésus à Pilate. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Jésus déclare que Judas, probablement sur la base de sa connaissance de Jésus, est davantage coupable que Pilate. Il n'est pas en train de dire à Pilate, « Tu vas t'en tirer avec celle-là, tu n'es pas coupable. » Non, non, non. Puis lorsqu'on lit les évangiles, on voit très bien la description du jeu politique de cet homme-là. Alors, on voit sa nature pécheresse dans son jeu politique. Il sait ce qui est juste, puis il ne le fait pas. Fait qu'on sait qu'il est coupable. Mais Jésus lui dit, « Judas est plus coupable que toi. » Ézéchiel 8:6. On est dans un passage prophétique et puis Dieu est en train de révéler à Ézéchiel le péché du peuple d'Israël et il dit, et là c'est Ézéchiel qui parle, « Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et dans toute cette section-là, là, j'ai juste pris un verset, mais Ézéchiel est voyagé pour voir le péché et il y a vraiment des abominations. Puis l'Esprit de Dieu lui dit, « Regarde, je vais t'en montrer des pires encore, puis je vais t'en montrer des pires encore. » Et donc, cette idée-là de gravité aux yeux de Dieu dans le sens de à quel point ça peut être abominable, c'est quelque chose qui est présent dans les Écritures. Plus positivement, au haut de la page 6, Jésus enseigne que certains commandements sont plus importants que d'autres. Si certains péchés sont plus abominables devant Dieu, certains commandements sont plus importants que d'autres commandements. Donc, enfreindre celui-là, c'est moins une abomination, je dirais, qu'enfreindre celui-là, admettons. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, dans Matthieu 23:23, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, leur dit, correct, vous faites cette partie-là, puis en faisant ça, vous vous faites bien. Ce n'est pas qu'il faisait mal, il faisait bien. Mais il dit, il y a des choses plus importantes encore que celles-là. Et donc, vous devriez tout faire ça, certainement pas négliger les plus importants, qui est toujours l'attitude du cœur. On sait, c'est un des discours qui reviennent beaucoup dans les prophètes. Ce qui importe à Dieu, ce n'est pas autant nos gestes religieux que les dispositions de cœur qu'on va poser envers les hommes et envers Dieu. Jacques 3:1, excusez le petit paragraphe. Et cette question peut nous amener à nous interroger à savoir si certains ne seront pas jugés plus sévèrement que d'autres. En effet, la Bible nous enseigne, par exemple, que ceux qui ont la charge d'enseigner la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement en raison de leur responsabilité. Donc, il y a même des degrés de responsabilité. D'accord? Et moi, je suis plus responsable parce que j'ai la charge d'enseigner la vérité. Je devrais trembler davantage devant Dieu quand je tolère des péchés dans ma vie, qui pourraient m'amener à enseigner des choses fausses par la suite. Nous voyons donc dans la parole de Dieu que tous les péchés entraînent la condamnation, tous les péchés sont fautifs devant Dieu, mais certains d'entre eux offensent davantage le Seigneur et certains entraînent de plus lourdes conséquences. L'homme sage cherchera à travailler premièrement à sa sanctification dans les domaines qui offensent davantage Dieu et qui sont plus lourds de conséquences. Ce qui est logique. Quand tu décides que tu arrives, puis là tu vois tout ce qu'il y a, là, puis tu veux te repentir de tout, mais il y a des choses qui vont prendre du temps à changer. Mais oui, commence par les choses qui parlent du cœur, commence par les choses qui ont des conséquences sur les vies des gens autour de toi. Que se passe-t-il quand un chrétien pêche? Notre statut légal reste inchangé. puis je vais aller tout de suite à B. Donc, lorsque le chrétien pêche, il ne perd pas son salut. Nous ne croyons pas qu'on peut perdre notre salut. De la même manière qu'on croit qu'on est sauvé par grâce et que la foi aussi, c'est une œuvre de grâce dans notre cœur, de la même manière, nous ne croyons pas que nous pouvons perdre notre salut. Et donc, notre statut légal demeure le même. Je demeure sauvé lorsque je pêche. Ça ne veut pas dire que c'est sans conséquence. Loin de là. Loin de là. Et vous connaissez des chrétiens qui ont comme plus de l'air des chrétiens, puis tout ce qui leur reste d'air de chrétien, c'est qu'ils viennent à l'église. Puis peut-être qu'ils ne blasphèment pas. T'sais. Mais il n'y a pas de feu, il n'y a pas de passion. Le premier commandement, là, tu ne le vois pas. Là. Il n'est pas là. Il y a des conséquences lorsque le chrétien pêche. Au haut de la page 7, notre communion avec Dieu est interrompue et notre vie chrétienne en pâtit. Par contre, cela ne signifie pas pour autant que nos péchés n'affectent pas notre relation avec Dieu. Nous pouvons en effet, par nos péchés, attrister l'Esprit de Dieu. Celui qui habite en nous pour nous assister et continuer à nous transformer peut être attristé par notre attitude. Et donc, je l'ai déjà mentionné, je pense même que je l'ai mentionné il y a quelques semaines, mais il m'est arrivé de parler avec des chrétiens, puis comme il n'y a plus... Tout ce qui reste comme œuvre de l'Esprit dans leur cœur, c'est qu'ils n'iraient pas ailleurs. Puis de temps en temps, avec une prédication, il y a une larme qui coule. Mais ça s'arrête là. Il n'y a plus de fruit de l'Esprit. Il n'y a plus de... La vie de l'Esprit n'est plus là. C'est, il y a quelque chose qui a été éteint en eux. Conséquence d'un endurcissement du cœur, d'une persévérance dans le péché, d'attrister l'Esprit, attrister l'Esprit, attrister l'Esprit. Et éventuellement, tu n'entends plus rien. Ton cœur n'est plus sensible. Et souvent, ces changements-là, ces retours-là vont se faire à travers des brisements. Parce que Dieu, dans sa grâce, châtie ses enfants. Dieu, dans sa grâce, châtie ses enfants. Ceux qu'il ne châtie pas sont damnés pour l'éternité. Mais quand Dieu vous châtie, c'est une œuvre de grâce que Dieu fait dans votre vie. Et donc, si vous êtes dans une situation où vous dites, mais j'ai plus de feu pour Dieu, j'ai plus de flamme pour lui, et l'Esprit vous a déjà montré que vous tolérez des péchés dans vos vies. Vous tolérez des péchés qui sont là, puis qui sont là, puis qui sont là. À un moment donné, l'Esprit ne se fait même plus entendre. D'une part, craignez les châtiments de Dieu, parce que c'est une bénédiction, mais ça ne fait pas moins mal. Puis d'autre part, sachez lorsque ça va se produire que c'est une grâce de Dieu. Et ils peuvent se faire sous toutes sortes de formes. Par exemple, la discipline ecclésiastique, là, je ne rentrerai pas dans tout ça, mais quand une église met quelqu'un en discipline, c'est un châtiment de Dieu qui est une manifestation de l'amour de Dieu envers cette personne-là. Quand moi, je vais voir un frère, après avoir tout fait un processus, puis je dis, frère, pour moi, tu te comportes comme un inconverti, et à partir d'ici, je prie pour le salut de ton âme, parce que pour moi, tu es comme un païen. Moi, je pourrais le faire avec une mauvaise attitude, je pourrais le faire avec un manque d'amour, je pourrais le faire en voulant rejeter la personne, tu sais. C'est pas le sentiment que Dieu veut qu'on ait. C'est avec un sentiment d'amour qu'on va faire ça. C'est un châtiment de Dieu. Maintenant, Dieu ne va pas le faire juste à travers l'Église. Il va le faire à travers des circonstances dans nos vies. Il va le faire à travers des relations. Il va le faire en laissant des conséquences de nos péchés venir dans nos vies. Il va le faire de toutes sortes de manières. Apocalypse 3, 19, c'est Jésus qui parle. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Et donc, Christ est en train de dire, « Attends pas le châtiment. » Ça va être une grâce quand ça va venir. Ça va faire mal. Quand ça va venir. Ça va être une grâce. Ça va être une bénédiction de Dieu. Une marque de son amour pour toi. Question pratique, et je termine avec ça. Pouvez-vous mentionner des parallèles entre la tentation à laquelle Ève a été soumise et celle auxquelles vous êtes exposé aujourd'hui dans votre vie chrétienne? On l'avait vu au début de la leçon 1. Si vous retournez lire ça, c'est intéressant de comprendre la dynamique du péché, comment ça se produit et à quel point, dans le fond, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a vu que tous les péchés qu'on commet ont certains traits du péché originel. D'accord? Vous pourrez le voir, c'est au début de la leçon, au début de la première partie de cette leçon-là. De quel genre de liberté de choix les non-croyants que vous connaissez disposent-ils réellement? Êtes-vous convaincu que leur état de rébellion contre Dieu ne changera pas à moins que le Saint-Esprit n'intervienne. En d'autres mots, êtes-vous convaincus qu'ils ont hérité d'une nature pécheresse et que sans l'intervention de Dieu, ils ne sortiront pas de là? Ils sont incapables de plaire à Dieu. Alors, si sur cette doctrine-là, vous restez avec des questions importantes, faites-moi signe, puis on va vous diriger vers des bonnes lectures. D'accord? Mais moi, je vous dirais que pour bien comprendre le salut, il faut bien comprendre la doctrine du péché. On va terminer avec un mot de prière. Seigneur Jésus, ta grâce dans mon cœur, Seigneur. Lorsque j'étudie la doctrine du péché, je suis d'une part attristé, Seigneur, parce que je le vis tellement personnellement, je le constate tellement dans ma vie, dans mes relations. Je le vois autour de moi. Encore, Seigneur, hier, je disais à Esther combien c'est partout cette affaire-là. Et c'est pathétique. Mais en même temps, Seigneur, ça m'aide à apprécier ce que tu as fait pour moi. La grâce que tu m'as faite de déposer tes regards sur moi, de faire de moi ton enfant, Père, de faire de moi ton frère, Christ, je ne méritais pas cela. Et Seigneur, je veux par ta grâce être sensible à ton esprit pour vivre cette vie nouvelle, libérée de la loi du péché, comme nous l'enseigne Paul dans Romains, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bon matin. On continue la semaine prochaine.